Spinoza, Éthique, traduction Charles Apoun, partie 3, proposition 33 à 59 comprises. Fichier suite 2. Proposition 33. Quand nous aimons une chose semblable à nous, nous nous efforçons autant que nous pouvons de faire qu'elle nous aime à son tour. Démonstration. Si nous aimons une chose par-dessus les autres, nous nous efforçons autant que nous pouvons de l'imaginer. Proposition 12. Si donc la chose nous est semblable, nous nous efforcerons de l'affecter de joie par-dessus les autres. Proposition 29. Autrement dit, nous nous efforcerons autant que nous pouvons de faire que la chose aimée soit affectée d'une joie qu'accompagne l'idée de nous-mêmes, c'est-à-dire, scoli de la proposition 13, qu'elle nous aime à son tour. CQFD. Proposition 34. Plus grande est l'affection que nous imaginons que la chose aimée éprouve à notre égard, plus nous nous glorifierons. Démonstration. Nous faisons effort, autant que nous pouvons, proposition précédente, pour faire que la chose aimée nous aime à son tour, c'est-à-dire, scoli de la proposition 13, que la chose aimée soit affectée d'une joie qu'accompagne l'idée de nous-mêmes. Plus grande, donc, est la joie dont nous imaginons que la chose est affectée à cause de nous, plus cet effort est secondé, c'est-à-dire, proposition 11 avec son scoli, plus grande est la joie dont nous sommes affectés. Mais, puisque notre joie provient de ce que nous avons affecté de joie un de nos semblables, nous nous considérons nous-mêmes avec joie. Proposition 30. Donc, plus grande est l'affection que nous imaginons que la chose aimée éprouve à notre égard, plus grande est la joie avec laquelle nous nous considérons nous-mêmes, c'est-à-dire plus nous nous glorifierons. CQFD. Proposition 35. Si quelqu'un imagine qu'un autre s'attache la chose aimée par le même lien d'amitié ou un plus étroit que celui par lequel il l'avait seul en sa possession, il sera affecté de haine envers la chose aimée elle-même et sera envieux de l'autre. Démonstration. Plus grand est l'amour dont il imagine la chose aimée affectée à son égard, plus il se glorifiera. Proposition précédente. C'est-à-dire sera joyeux. Scoli de la proposition 30. Il s'efforcera donc, proposition 28, autant qu'il peut, d'imaginer la chose aimée attachée à lui le plus étroitement possible. Et cet effort ou cet appétit est encore alimenté s'il imagine qu'un tiers désire pour lui la même chose. Proposition 31. Mais on suppose cet effort ou appétit réduit par l'image de la chose aimée elle-même, accompagnée de l'image de celui qu'elle se joint. Il sera donc, scoli de la proposition 11, par cela même, affecté d'une tristesse qu'accompagne comme cause l'idée de la chose aimée et en même temps l'image d'un autre. C'est-à-dire, scoli de la proposition 13, il sera affecté de haine envers la chose aimée et en même temps envers cet autre, corollaire de la proposition 15. Et il sera envieux de lui, proposition 23, parce qu'il tire du plaisir de la chose aimée, CQFD. Scoli. Cette haine envers une chose aimée, jointe à l'envie, s'appelle jalousie, et ainsi la jalousie n'est rien d'autre qu'une fluctuation de l'âme née de ce qu'il y a amour et haine en même temps, avec accompagnement de l'idée d'un autre auquel on porte envie. De plus, cette haine envers la chose aimée est plus grande à proportion de la joie dont le jaloux avait accoutumé d'être affecté par l'amour que lui rendait la chose aimée, et à proportion aussi du sentiment dont il était affecté à l'égard de celui qu'il imagine que la chose aimée se joint. Car s'il le haïssait, par cela même, proposition 24, il aura en haine la chose aimée, puisqu'il l'imagine affectant de joie ce qui lui est odieux. Et aussi, corollaire de la proposition 15, parce qu'il est obligé de joindre l'image de la chose aimée à l'image de celui qu'il est. Cette dernière raison se trouve généralement dans l'amour qu'on a pour une femme. Qui imagine en effet la femme qu'il aime se livrant à un autre sera contristée, non seulement parce que son propre appétit est réduit, mais aussi parce qu'il est obligé de joindre l'image de la chose aimée aux parties honteuses et aux excrétions de l'autre. Il l'a en aversion. À quoi s'ajoute enfin que le jaloux n'est pas accueilli par la chose aimée du même visage qu'elle avait accoutumé de lui présenter, et que pour cette cause aussi, un amant est contristé, comme je vais le montrer. Proposition 36. Qui se rappelle une chose où il a pris plaisir une fois, désire la posséder avec les mêmes circonstances que la première fois qu'il y a pris plaisir? Démonstration. Tout ce que l'homme a vu en même temps que la chose où il a pris plaisir sera par accident, proposition 15, cause de joie. Il désirera donc, proposition 28, posséder tout cela en même temps que la chose où il a pris plaisir, c'est-à-dire qu'il désirera posséder la chose avec les mêmes circonstances que la première fois qu'il y a pris plaisir. C'est QFD. Si donc il s'est aperçu qu'une de ces circonstances manquait, l'amant sera contristé. Démonstration. Quand en effet, il s'aperçoit qu'une circonstance fait défaut, il imagine, dans une certaine mesure, quelque chose qui exclut l'existence de la chose. Puis donc, que par amour il a le désir de cette chose ou de cette circonstance, proposition précédente, en tant qu'il imagine qu'elle fait défaut, proposition 19, il sera contristé, c'est QFD. Scoli. Cette tristesse, en tant qu'elle est relative à l'absence de ce que nous aimons, s'appelle souhait frustré. Proposition 37. Le désir qui prend naissance à cause d'une tristesse ou d'une joie, d'une haine ou d'un amour, est d'autant plus grand que l'affection est plus grande. Démonstration. La tristesse diminue ou réduit la puissance d'agir de l'homme, Scoli de la proposition 11. C'est-à-dire, proposition 7, l'effort par lequel l'homme s'efforce à persévérer dans son être. Ainsi, proposition 15, elle est contraire à cet effort. Et tout l'effort de l'homme affecté de tristesse tend à écarter la tristesse. Mais, par la définition de la tristesse, plus grande est la tristesse, plus grande est la partie de la puissance d'agir de l'homme à laquelle elle s'oppose nécessairement. Donc, plus grande est la tristesse, plus grande est la puissance d'agir par laquelle l'homme s'efforce à son tour d'écarter la tristesse. C'est-à-dire, Scoli de la proposition 9, plus grand est le désir ou l'appétit par lequel il s'efforcera d'écarter la tristesse. Ensuite, puisque la joie, même Scoli de la proposition 11, augmente ou seconde la puissance d'agir de l'homme, on démontre aisément, par la même voie, qu'un homme affecté d'une joie ne désire rien d'autre que la conserver, et cela d'un désir d'autant plus grand que la joie sera plus grande. Enfin, puisque la haine et l'amour sont les affections mêmes de la tristesse ou de la joie, il suit de la même manière que l'effort, l'appétit ou le désir qui prend naissance d'une haine ou d'un amour sera plus grand à proportion de la haine et de l'amour. CQFD. Proposition 38. Si quelqu'un commence d'avoir en haine une chose aimée, de façon que l'amour soit entièrement aboli, il aura pour elle, à cause égale, plus de haine que s'il ne l'avait jamais aimée, et d'autant plus que son amour était auparavant plus grand. Démonstration. Si quelqu'un, en effet, commence d'avoir en haine la chose qu'il aime, un plus grand nombre de ses appétits sont réduits que s'il ne l'avait pas aimée. Car l'amour est une joie, scoli de la proposition 13, que l'homme, autant qu'il peut, proposition 28, s'efforce de conserver. Et cela même, scoli, en considérant la chose aimée comme présente et en l'affectant de joie, proposition 21, autant qu'il peut. Cet effort, proposition précédente, est d'autant plus grand d'ailleurs que l'amour est plus grand, de même que l'effort pour faire que la chose aimée l'aime à son tour, proposition 33. Mais ces efforts sont réduits par la haine envers la chose aimée, corollaire de la proposition 13 et proposition 23. Donc, l'amant, scoli de la proposition 11, pour cette cause aussi, sera affecté de tristesse, et d'autant plus que son amour était plus grand. C'est-à-dire, outre la tristesse qui fut cause de la haine, une autre naît de ce qu'il a aimé la chose, et conséquemment, il considérera la chose aimée avec une affection de tristesse plus grande, c'est-à-dire, scoli de la proposition 13, éprouvera envers elle une haine plus grande que s'il ne l'avait pas aimée, et d'autant plus grande que son amour était plus grand. CQFD. Proposition 39. Qui a quelqu'un en haine s'efforcera de lui faire du mal, à moins qu'il ne craigne qu'un mal plus grand ne naisse pour lui de là. Et au contraire, qui aime quelqu'un s'efforcera par la même loi de lui faire du bien. Démonstration. Avoir quelqu'un en haine, c'est, scoli de la proposition 13, l'imaginer comme une cause de tristesse. Par suite, proposition 28, celui qui a quelqu'un en haine s'efforcera de l'écarter ou de le détruire. Mais s'il craint de là pour lui-même quelque chose de plus triste, ou ce qui est la même chose, un mal plus grand, et s'il croit pouvoir l'éviter, en ne faisant pas à celui qu'il hait le mal qu'il méditait, il désirera s'abstenir, même proposition 28, de lui faire du mal. Et cela, proposition 37, avec un effort plus grand que celui qui le portait à faire du mal, et qui en conséquence prévaudra, comme nous le voulions démontrer. La démonstration de la deuxième partie procède de même. Donc, qui a quelqu'un en haine, etc., CQFD. Scoli. Par bien, j'entends ici tout genre de joie, et tout ce qui, en outre, y mène, et principalement ce qui remplit l'attente, quelle qu'elle soit. Par mal, j'entends tout genre de tristesse, et principalement ce qui frustre l'attente. Nous avons en effet montré ci-dessus, scoli de la proposition 9, que nous ne désirons aucune chose parce que nous la jugeons bonne, mais qu'au contraire, nous appelons bonne la chose que nous désirons. Conséquemment, nous appelons mauvaise la chose que nous avons en aversion. Chacun juge ainsi ou estime selon son affection quelle chose est bonne, quelle mauvaise, quelle meilleure, quelle pire, quelle enfin la meilleure ou quelle la pire. Ainsi, L'avare juge que l'abondance d'argent est ce qu'il y a de meilleur, la pauvreté ce qu'il y a de pire. L'ambitieux ne désire rien tant que la gloire et ne redoute rien tant que la honte. À l'envieux, rien n'est plus agréable que le malheur d'autrui, et rien plus insupportable que le bonheur d'un autre. Et ainsi, chacun juge par son affection qu'une chose est bonne ou mauvaise, utile ou inutile. Cette affection d'ailleurs, par laquelle l'homme est disposé de telle sorte qu'il ne veut pas ce qu'il veut, ou veut ce qu'il ne veut pas, s'appelle la peur. La peur n'est donc autre chose que la crainte en tant qu'elle dispose un homme à éviter un mal qu'il juge devoir venir par un moindre mal. Vois proposition 28. Si le mal dont on a peur est la honte, alors la peur s'appelle pudeur. Enfin, si le désir d'éviter un mal futur est réduit par la peur d'un autre mal, de façon qu'on ne sache plus ce qu'on veut, alors la crainte s'appelle consternation, principalement quand l'un et l'autre mot dont on a peur sont parmi les plus grands. Proposition 40. Qui imagine qu'un autre l'a en haine et croit ne lui avoir donné aucune cause de haine, aura à son tour cet autre en haine. Démonstration. Qui imagine quelqu'un affecté de haine sera par cela même affecté de haine, proposition 27, c'est-à-dire, scoli de la proposition 13, d'une tristesse qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Mais, par hypothèse, il n'imagine aucune cause de cette tristesse, sauf celui qui l'a en haine. Par cela donc qu'il imagine que quelqu'un l'a en haine, il sera affecté d'une tristesse qu'accompagnera l'idée de celui qui l'a en haine. Autrement dit, même scoli, il l'aura en haine. C'est QFD. Scoli. S'il imagine avoir donné une juste cause de haine, alors, proposition 30 et scoli, il sera affecté de honte. Mais cela, proposition 25, arrive rarement. Cette réciprocité de haine peut naître aussi de ce que la haine est suivie d'un effort pour faire du mal à celui qu'on a en haine. Proposition 39. Qui donc imagine que quelqu'un l'a en haine, l'imagine cause d'un mal ou d'une tristesse. Et ainsi, il sera affecté d'une tristesse ou d'une crainte qu'accompagnera comme cause l'idée de celui qui l'a en haine. Autrement dit, il sera comme ci-dessus, affecté de haine. Corollaire 1. Qui imagine celui qu'il aime affecté de haine à son égard sera dominé en même temps par la haine et par l'amour. En tant qu'il imagine en effet que l'autre l'a en haine, il est déterminé, proposition précédente, à l'avoir en haine à son tour. Mais, par hypothèse, il l'aime néanmoins. Il sera donc dominé à la fois par la haine et l'amour. Corollaire 2. Si quelqu'un imagine qu'un mal lui a été fait par haine par un autre, à l'égard duquel il n'avait d'affection d'aucune sorte, il s'efforcera aussitôt de lui rendre ce mal. Démonstration. Qui imagine quelqu'un affecté de haine à son égard, l'aura en haine à son tour, proposition précédente, et, proposition 26, s'efforcera de se rappeler tout ce qui peut affecter cet autre de tristesse et cherchera, proposition 39, à le lui faire éprouver. Mais, par hypothèse, ce qu'il imagine en premier dans ce genre est le mal qui lui a été fait à lui-même. Il s'efforcera donc aussitôt de le rendre à l'autre. C'est QFD. Scoli. L'effort pour faire du mal à celui que nous haïssons s'appelle la colère. L'effort pour rendre le mal qui nous a été fait, la vengeance. Proposition 41. Si quelqu'un imagine qu'il est aimé par un autre et croit ne pas lui avoir donné aucune cause d'amour, ce qui, suivant le corollaire de la proposition 15 et la proposition 16, peut arriver, il l'aimera à son tour. Démonstration. Cette proposition se démontre par la même voie que la précédente, dont on verra aussi le scoli. Scoli. S'il croit avoir donné une juste cause d'amour, il se glorifiera. Proposition 30 avec le scoli. Ce qui, proposition 25, est le cas le plus fréquent. C'est le contraire, nous l'avons dit, quand quelqu'un imagine qu'un autre l'a en haine. Scoli de la proposition précédente. Cet amour réciproque maintenant, et conséquemment l'effort pour faire du bien à qui nous aime, et s'efforce, même proposition 39, de nous en faire, s'appelle reconnaissance ou gratitude. Il apparaît donc que les hommes sont beaucoup plus disposés à la vengeance qu'à rendre des bienfaits. Corollaire. Qui imagine être aimé par celui qu'il a en haine sera dominé à la fois par la haine et par l'amour. Cela se démontre par la même voie que le premier corollaire de la proposition précédente. Scoli. Si la haine a prévalu, il s'efforcera de faire du mal à celui par qui il est aimé. Cette affection s'appelle cruauté, surtout si l'on juge que celui qui aime n'a donné aucune cause commune de haine. Proposition 42. Qui, mu par l'amour ou un espoir de gloire, a fait du bien à quelqu'un, sera contristé s'il voit que son bienfait est reçu avec ingratitude. Démonstration. Qui aime une chose semblable à lui, s'efforce autant qu'il peut de faire qu'elle l'aime à son tour. Proposition 33. Qui donc a, par amour, fait du bien à quelqu'un, a fait cela parce qu'il souhaitait être aimé à son tour, c'est-à-dire avec un espoir de gloire. Proposition 34. Ou de joie, scoli de la proposition 30. Il s'efforcera donc, proposition 12, d'imaginer, autant qu'il peut, cette cause de gloire, ou de la considérer comme existant en acte. Mais, par hypothèse, il imagine autre chose qui exclut l'existence de cette cause. Il sera donc, proposition 19, par la même, contristé. CQFD. Proposition 43. La haine est accrue par une haine réciproque et peut, au contraire, être extirpée par l'amour. Démonstration. Qui imagine que celui qu'il hait est affecté de haine à son égard. Une haine nouvelle prend naissance. Proposition 40. Alors que, par hypothèse, la première dure encore. Mais si, au contraire, il imagine que cet autre est affecté d'amour à son égard, en tant qu'il imagine cela, il se considère lui-même avec joie. Proposition 30. Et s'efforcera, dans la même mesure, proposition 29, de plaire à cet autre. C'est-à-dire, proposition 41, il s'efforce, toujours dans la même mesure, de ne l'avoir pas en haine et de ne l'affecter d'aucune tristesse. Cet effort sera d'ailleurs, proposition 37, plus grand ou plus petit à proportion de l'affection d'où il naît. Et ainsi, s'il est plus grand que celui qui naît de la haine et par lequel il s'efforcera d'affecter de tristesse celui qu'il hait, proposition 26, il prévaudra sur lui et extirpera la haine du cœur. CQFD. Proposition 44. La haine qui est entièrement vaincu par l'amour, se change en amour, et l'amour est pour cette raison plus grand que si la haine n'eût pas précédé. Démonstration. On procède comme pour démontrer la proposition 38. Qui commence d'aimer en effet la chose qu'il est, ou a accoutumé de considérer avec tristesse, il sera joyeux par cela même qu'il aime. Et à cette joie qu'enveloppe l'amour, voire sa définition dans le scoli de la proposition 13, s'ajoute celle qui naît de ce que l'effort, pour écarter la tristesse enveloppée dans la haine, comme nous l'avons montré dans la proposition 37, est entièrement secondé, avec accompagnement comme cause de l'idée, de celui qu'on avait en haine. Scoli. Bien qu'il en soit ainsi, personne cependant ne fera effort pour avoir quelqu'un en haine ou être affecté de tristesse afin de jouir de cette joie plus grande. C'est-à-dire, personne, dans l'espoir d'un dédommagement, ne désirera se porter dommage à soi-même et ne souhaitera être malade dans l'espoir de guérir. Car chacun s'efforcera toujours de conserver son être et autant qu'il peut d'écarter la tristesse. Que si, au contraire, on pouvait concevoir un homme désirant avoir quelqu'un en haine afin d'éprouver ensuite pour lui un plus grand amour. Alors, il souhaitera toujours l'avoir en haine. Car, plus la haine aura été grande, plus grand sera l'amour. Et par suite, il souhaitera toujours que la haine s'accroisse de plus en plus. Et pour la même cause, un homme s'efforcera de plus en plus d'être malade afin de jouir ensuite d'une plus grande joie par le rétablissement de sa santé. Il s'efforcera donc d'être malade toujours, ce qui, proposition 6, est absurde. Proposition 45. Si quelqu'un qui aime une chose semblable à lui imagine qu'un autre semblable à lui est affecté de haine envers cette chose, il aura cet autre en haine. Démonstration. La chose aimée, en effet, a en haine à son tour celui qui la hait. Proposition 40. Et ainsi, l'amant qui imagine que quelqu'un a en haine la chose aimée, par cela même, imagine que la chose aimée est affectée de haine. C'est-à-dire, scoli de la proposition 13, de tristesse. Et conséquemment, proposition 21 est attristée. Et cela, avec l'accompagnement comme cause de l'idée de celui qui est la chose aimée. C'est-à-dire, scoli de la proposition 13, qu'il aura cet autre en haine. C'est QFD. Proposition 46. Si quelqu'un a été affecté par un autre, appartenant à une classe ou à une nation différente, d'une joie ou d'une tristesse qu'accompagne comme cause l'idée de cet autre sous le nom général de la classe ou de la nation, non seulement il aimera cet autre ou l'aura en haine, mais aussi tous ceux de la même classe ou de la même nation. La démonstration résulte avec évidence de la proposition 16. Proposition 47. La joie naissant de ce que nous imaginons qu'une chose que nous haïssons est détruite ou affectée d'un autre mal ne naît pas sans quelque tristesse de l'âme. Démonstration. Cela est évident par la proposition 27, car, en tant que nous imaginons qu'une chose semblable à nous est affectée de tristesse, nous sommes en quelque mesure contristés. Scoli. Cette proposition peut aussi se démontrer par le corollaire de la proposition 17, partie 2. Chaque fois, en effet, qu'il nous souvient d'une chose, bien qu'elle n'existe pas en acte, nous la considérons cependant comme présente, et le corps est affecté de la même manière. entend par suite que le souvenir de la chose est vivace, l'homme est déterminé à la considérer avec tristesse. Et cette détermination, aussi longtemps que demeure l'image de la chose, est réduite à la vérité, mais non ôtée par le souvenir des choses qui exclut l'existence de la chose menacée. Et par suite, l'homme est joyeux seulement dans la mesure où cette détermination est réduite. Par où il arrive que cette joie, qui naît du mal de la chose que nous haïssons, se renouvelle toutes les fois qu'il nous souvient de cette chose. Comme nous l'avons dit, en effet, quand l'image de cette chose est réveillée, comme elle enveloppe l'existence de la chose, elle détermine l'homme à la considérer avec la même tristesse avec laquelle il avait accoutumé de la considérer quand elle existait. Mais, comme il a joint à l'image de cette chose d'autres images qui en excluent l'existence, cette détermination à la tristesse est réduite aussitôt. Et l'homme est joyeux de nouveau. Et cela, toutes les fois que l'occurrence se répète. C'est pour cette cause que les hommes sont joyeux, toutes les fois qu'ils leur souviennent d'un mal déjà passé. Et c'est pourquoi ils s'épanouissent à narrer des périls dont ils ont été délivrés. Quand ils imaginent quelque péril, en effet, ils le considèrent comme futur et sont déterminés à le craindre. Mais cette détermination est réduite de nouveau par l'idée de la liberté qu'ils ont joint à celle de ce péril alors qu'ils en ont été délivrés. Et cette idée leur rend de nouveau la sécurité. Et par suite, ils sont de nouveau joyeux. Proposition 48. L'amour et la haine, par exemple, envers Pierre, sont détruits si la tristesse qu'enveloppe la seconde et la joie qu'enveloppe le premier sont joints à l'idée d'une autre cause. Et amour et haine sont diminués dans la mesure où nous imaginons que Pierre n'est pas la cause à lui seul de la tristesse ou de la joie qu'enveloppent ses affections. Démonstration. Cela est évident par la seule définition de l'amour et de la haine que l'on verra dans le scoli de la proposition 13. La seule raison, en effet, pour laquelle la joie est appelée amour et la tristesse haine envers Pierre, est que Pierre est considéré comme étant la cause de l'une ou l'autre affection. Cette raison, donc, étant ôtée totalement ou en partie, l'affection se rapportant à Pierre est détruite ou diminuée. C'est QFD. Proposition 49. L'amour et la haine envers une chose que nous imaginons qui est libre doivent tous deux être plus grands à cause égale qu'envers une chose nécessaire. Démonstration. Une chose que nous imaginons qui est libre doit, définition 7, partie 1, être perçue par elle-même sans les autres. Si donc nous imaginons qu'elle est la cause d'une joie ou d'une tristesse, par cela même, scoli de la proposition 13, nous l'aimerons ou l'aurons en haine, et cela, proposition précédente, du plus grand amour ou de la plus grande haine qui puisse naître d'une affection donnée. Mais, si nous imaginons comme nécessaire la chose qui est la cause de cette affection, alors, même définition 7 partie 1, nous n'imaginerons pas qu'elle est la seule cause, mais qu'elle est cause conjointement à d'autres choses. Et ainsi, proposition précédente, l'amour et la haine envers elle seront moindres. C'est QFD. Scoli. Il suit de là que les hommes, parce qu'ils se tiennent pour libres, sont animés à l'égard les uns des autres d'un amour et d'une haine plus grands qu'à l'égard d'autres objets. À quoi s'ajoute l'imitation des affections. Voir à ce sujet, proposition 27, 34, 40 et 43. Proposition 50. Une chose quelconque peut, par accident, être cause d'espoir ou de crainte. Démonstration. Cette proposition se démontre par la même voie que la proposition 15. La voir en même temps que le scolie 2 de la proposition 18. Scolie. Les choses qui sont par accident des causes d'espoir ou de crainte sont appelées bons ou mauvais présages. J'ajoute que ces présages, en tant qu'ils sont une cause d'espoir ou de crainte, sont, définition de l'espoir et de la crainte, voire scolie de la proposition 18, une cause de joie ou de tristesse, et conséquemment, corollaire de la proposition 15, nous les aimons ou les avons en haine comme telles, et, proposition 28, nous cherchons à les employer comme des moyens de parvenir à ce que nous espérons, ou à les écarter comme des obstacles ou des causes de crainte. En outre, il suit de la proposition 25 que nous sommes disposés de nature à croire facilement ce que nous espérons, difficilement ce dont nous avons peur, et à en faire, respectivement, trop ou trop peu de cas. De là sont nées les superstitions par lesquelles les hommes sont partout dominés. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il vaille la peine de montrer ici les fluctuations qui naissent de l'espoir et de la crainte, puisqu'il suit de la seule définition de ces affections qu'il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir, comme nous l'expliquerons plus amplement en son lieu. Et puisque, en outre, en tant que nous espérons ou craignons quelque chose, nous l'aimons ou l'avons en haine, et ainsi, tout ce que nous avons dit de l'amour et de la haine, chacun pourra aisément l'appliquer à l'espoir et à la crainte. Proposition 51. Des hommes divers peuvent être affectés de diverses manières par un seul et même objet. Et un seul et même homme peut être affecté par un seul et même objet de diverses manières en divers temps. Démonstration. Le corps humain peut, postulat 3, partie 2, être affecté par les corps extérieurs d'un très grand nombre de manières. Deux hommes peuvent donc, dans le même temps, être affectés de manières diverses, et ainsi, axiome 1 venant après le lemme 3 à la suite de la proposition 13, partie 2, ils peuvent être affectés de diverses manières par un seul et même objet. Ensuite, même postulat, le corps humain peut être affecté tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et conséquemment, même axiome, il peut être affecté par un seul et même objet de diverses manières en divers temps. CQFD. Scolie. Nous voyons qu'il peut arriver ainsi que l'un est en haine ce qu'aime l'autre, et que l'un ne craigne pas ce que craint l'autre. Qu'un seul et même homme aime maintenant ce qu'il haïssait auparavant, ose ce qui lui faisait peur, etc. Comme, en outre, chacun juge d'après son affection quelle chose est bonne, quelle mauvaise, quelle meilleure et quelle pire, scolie de la proposition 39, il suit que les hommes peuvent différer autant par le jugement que par l'affection. Par là, il arrive que, comparant les hommes les uns aux autres, nous les distinguions par la seule diversité de leurs affections, et appelions les uns intrépides, les autres peureux, d'autres enfin d'un autre nom. J'appellerais, par exemple, intrépide, celui qui méprise le mal dont j'ai habituellement peur. Et si de plus j'ai égard à ce que son désir de faire du mal à celui qu'il est n'est pas réduit par la peur d'un mal qui me retient habituellement, je l'appellerai audacieux. Puis, celui-là me paraîtra peureux, qui a peur du mal que j'ai accoutumé de mépriser. Et si j'ai, en outre, égard à ce que son désir est réduit par la peur d'un mal qui ne peut me retenir, je dirai qu'il est pusillanime. Et ainsi jugera chacun. À cause, enfin, de cette nature de l'homme et de l'inconstance de son jugement, comme aussi parce que l'homme juge souvent des choses par son affection seulement, et que les choses qu'il croit faire en vue de la joie ou de la tristesse, et dont, pour cette raison, proposition 28, il s'efforce de procurer la venue ou qu'il s'efforce d'écarter, ne sont souvent qu'imaginaires. Pour ne rien dire ici, des autres causes d'incertitude que j'ai fait voir dans la deuxième partie. Pour toutes ces raisons, donc, nous concevons aisément que l'homme puisse intervenir souvent lui-même comme cause tant de sa tristesse que de sa joie, c'est-à-dire qu'il soit affecté d'une joie ou d'une tristesse qu'accompagne comme cause l'idée de lui-même. Et nous connaissons ainsi facilement ce qu'est le repentir et ce qu'est le contentement de soi. Le repentir, dis-je, est une tristesse qu'accompagne l'idée de soi-même, et le contentement de soi est une joie qu'accompagne comme cause l'idée de soi-même, et ses affections sont très vives parce que les hommes croient qu'ils sont libres. Voir proposition 49. Proposition 52. Si nous avons déjà vu un objet en même temps que d'autres, ou si nous imaginons qu'il n'a rien qui ne soit commun à plusieurs, nous ne le considérerons pas aussi longtemps que celui que nous imaginons qui a quelque chose de singulier. Démonstration. Sitôt que nous imaginons un objet que nous avons vu avec d'autres, il nous souvient aussi des autres. Proposition 18, partie 2. Voir aussi le Scoli. Et ainsi, de la considération de l'un, nous tombons aussitôt dans la considération d'un autre. Et telle est aussi la condition d'un objet si nous imaginons qu'il n'a rien qui ne soit commun à plusieurs. Nous supposons par cela même, en effet, que nous ne considérons rien en lui, que nous n'ayons vu auparavant conjointement à d'autres. Mais quand nous supposons que nous imaginons dans un objet quelque chose de singulier que nous n'avons jamais vu auparavant, nous ne disons rien d'autre sinon que l'âme, pendant qu'elle considère cet objet, n'a rien en elle dans la considération de quoi la considération de cet objet puisse la faire tomber. Et ainsi, elle est déterminée à le considérer uniquement. Donc, si un objet, etc., c'est QFD. Scoli. Cette affection de l'âme, ou cette imagination d'une chose singulière, en tant qu'elle se trouve seule dans l'âme, est appelée étonnement. Si elle est provoquée par un objet dont nous avons peur, elle est dite consternation, parce que l'étonnement d'un mal tient l'homme à ce point en suspens dans la seule considération de ce mal, qu'il est incapable de penser à d'autres objets par où il pourrait éviter ce mal. Mais si ce qui nous étonne est la prudence d'un homme, son industrie ou quelque autre chose de ce genre, comme par cela même nous considérons cet homme comme l'emportant de beaucoup sur nous, alors l'étonnement se nomme vénération, et horreur si c'est la colère d'un homme, son envie, etc., qui nous étonne. Ensuite, si nous sommes étonnés de la prudence, de l'industrie, etc., d'un homme que nous aimons, notre amour, par cela même, proposition 12, sera plus grand, et nous appelons ferveur cet amour joint à l'étonnement ou à la vénération. Nous pouvons aussi concevoir de cette manière la haine, l'espoir, la sécurité et d'autres affections se joignant à l'étonnement, et nous pourrons déduire ainsi plus d'affections qu'on a coutume d'en désigner par les mots reçus. D'où il apparaît que l'usage ordinaire des affections, plus que leur connaissance attentive, a fait inventer ces noms. À l'étonnement s'oppose le mépris, dont la cause est toutefois généralement la suivante. Nous voyons que quelqu'un s'étonne d'une chose, l'aime, la craint, etc. Ou encore, une chose paraît, au premier aspect, semblable à celle dont nous nous étonnons, que nous aimons, craignons, etc. Et nous sommes ainsi déterminés, proposition 15 avec son corollaire, et proposition 27, à nous étonner de cette chose, à l'aimer, la craindre. Mais si par sa présence ou sa considération plus attentive, nous sommes contraints de nier d'elle tout ce qui peut être cause d'étonnement, d'amour, de crainte, etc., alors l'âme demeure déterminée, par la présence même de la chose, à penser à ce qui n'est pas dans l'objet, plutôt qu'à ce qui s'y trouve. Tandis qu'au contraire, la présence d'un objet fait penser d'ordinaire principalement à ce qui s'y trouve. De même, maintenant que la ferveur naît de l'étonnement causé par une chose que nous aimons, la dérision naît du mépris de la chose que nous haïssons ou craignons, et le dédain du mépris de la sottise, comme la vénération naît de l'étonnement de la prudence. Nous pouvons enfin concevoir l'amour, l'espoir, la gloire et d'autres affections se joignant au mépris, et déduire encore de là de nouvelles affections que nous n'avons accoutumé de distinguer des autres par aucun vocable. Proposition 53. Quand l'âme se considère elle-même et considère sa puissance d'agir, elle est joyeuse, et d'autant plus qu'elle s'imagine elle-même et imagine sa puissance d'agir plus distinctement. Démonstration. L'homme ne se connaît pas lui-même, sinon par les affections de son corps et leurs idées. Propositions 19 et 23, partie 2. Quand donc il arrive que l'âme peut se considérer elle-même, par cela même, elle est supposée passer à une perfection plus grande, c'est-à-dire, scoli de la proposition 11, elle est supposée d'être affectée de joie, et d'autant plus qu'elle s'imagine elle-même et imagine sa puissance d'agir plus distinctement. CQFD. Corollaire. Cette joie est de plus en plus alimentée à mesure que l'homme imagine davantage qu'il est loué par d'autres. Car plus il imagine qu'il est loué par d'autres, plus grande est la joie dont il imagine que les autres sont affectés par lui. Et cela avec l'accompagnement de l'idée de lui-même. Scoli de la proposition 29. Et ainsi, proposition 27, lui-même est affecté d'une joie plus grande qu'accompagne l'idée de lui-même. Proposition 54. L'âme s'efforce d'imaginer cela seulement qui pose sa propre puissance d'agir. Démonstration. L'effort de l'âme ou sa puissance est l'essence même de cette âme, proposition 7. Or, l'essence de l'âme, comme il est connu de soi, affirme cela seulement que l'âme est et peut, mais non ce qu'elle n'est pas et ne peut pas. Et ainsi, elle s'efforce d'imaginer cela seulement qui affirme ou pose sa propre puissance d'agir. CQFD. Proposition 55. Quand l'âme imagine son impuissance, elle est contristée par cela même. Démonstration. L'essence de l'âme affirme cela seulement que l'âme est et peut, autrement dit, qu'il est de la nature de l'âme d'imaginer seulement ce qui pose sa puissance d'agir. proposition précédente. Quand donc, nous disons que l'âme, tandis qu'elle se considère elle-même, imagine son impuissance, nous ne disons rien d'autre, sinon que, tandis que l'âme s'efforce d'imaginer quelque chose qui pose sa puissance d'agir, cet effort qu'elle fait est réduit, autrement dit, Scoli de la proposition 11, qu'elle est contristée. CQFD. Corollaire. Cette tristesse est de plus en plus alimentée si on imagine qu'on est blâmé par d'autres, ce qui se démontre de la même manière que le corollaire de la proposition 53. Scoli. Cette tristesse qu'accompagne l'idée de notre faiblesse s'appelle humilité. La joie qui naît de la considération de nous, amour-propre ou contentement de soi. Et comme elle se renouvelle toutes les fois que l'homme considère ses propres vertus ou sa puissance d'agir, il arrive par là que chacune s'empresse à narrer ses faits et gestes et à étaler les forces tant de son corps que de son esprit. Et que pour cette cause, les hommes sont insupportables les uns aux autres. Et de là encore, il suit que les hommes sont de nature envieux. Voir Scoli de la proposition 24 et Scoli de la proposition 32. C'est-à-dire qu'ils s'épanouissent de la faiblesse de leurs pareils et se contristent de leurs vertus. Toutes les fois, en effet, que l'on imagine ses propres actions, on est affecté de joie, proposition 53. Et d'autant plus que les actions semblent exprimer plus de perfection et qu'on les imagine plus distinctement. C'est-à-dire, par ce qui est dit dans le Scoli 1 de la proposition 40, partie 2, qu'on peut davantage les distinguer des autres et les considérer comme des choses singulières. C'est pourquoi on sera épanoui au plus haut point par la considération de soi-même quand on considère en soi quelque chose que l'on nie des autres. Mais, si l'on rapporte à l'idée générale de l'homme ou de l'être vivant ce qu'on affirme de soi, on ne s'épanouira pas autant, et l'on sera contristé, au contraire, si l'on imagine que ses actions comparées à celles des autres sont plus faibles. On s'efforcera d'ailleurs d'écarter cette tristesse, proposition 28, et cela en interprétant faussement les actions de ses pareils ou en ornant les siennes autant qu'on peut. Il apparaît donc que les hommes sont de nature enclins à la haine et à l'envie, à quoi s'ajoute encore l'éducation. Car les parents ont accoutumé d'exciter leurs enfants à la vertu par le seul aiguillon de l'honneur et de l'envie. Il reste cependant peut-être un motif d'hésiter, parce qu'il n'est point rare que nous admirions les vertus des hommes et les vénérions eux-mêmes. Pour l'écarter, j'ajouterai le corollaire suivant. Corollaire. Nul ne porte envie pour sa vertu à un autre qu'à un pareil. Démonstration. L'envie est la haine elle-même, Scoli de la proposition 24, c'est-à-dire une tristesse, Scoli de la proposition 13, en d'autres termes, Scoli de la proposition 11, une affection par laquelle la puissance d'agir d'un homme ou son effort est réduit. Mais l'homme, Scoli de la proposition 9, ne s'efforce vers une action et ne désire la faire que si elle peut suivre de sa nature telle qu'elle est donnée. Donc, l'homme ne désirera pas qu'aucune puissance d'agir, ou ce qui revient au même, qu'aucune vertu soit affirmée de lui, si elle appartient en propre à la nature d'un autre et est étrangère à la sienne. Et ainsi, son désir ne peut être réduit, c'est-à-dire, Scoli de la proposition 11, qu'il ne peut être contristé parce qu'il considère quelque vertu dans un être dissemblable, et conséquemment, il ne peut lui porter envie. mais il portera envie à son pareil, qui est supposé de même nature que lui. C'est QFD. Scoli. Puis donc que nous vénérons un homme. Disions-nous plus haut, dans le scoli de la proposition 52, parce que nous voyons avec étonnement sa prudence, son courage, etc. Cela a lieu, comme le montre la proposition précédente, parce que nous imaginons que ses vertus lui appartiennent de façon singulière, et n'en faisons pas des manières d'être communes de notre nature. Et de la sorte, nous ne les lui envions pas plus qu'aux arbres la hauteur et aux lions le courage, etc. Proposition 56. Il y a autant d'espèces de joie, de tristesse et de désir, et conséquemment de toutes les affections qui en sont composées, comme la fluctuation de l'âme, ou en dérive, comme l'amour, la haine, l'espoir, la crainte, etc., qu'il y a d'espèces d'objets par où nous sommes affectés. Démonstration. La joie et la tristesse, et conséquemment les affections qui en sont composées, ou en dérivent, sont des passions. Scoli de la proposition 11. Nous pâtissons, d'ailleurs, proposition 1, nécessairement en tant que nous avons des idées inadéquates, et dans l'exacte mesure seulement où nous en avons, proposition 3, c'est-à-dire Scoli 1 de la proposition 40, partie 2. Nous pâtissons, dans la mesure seulement où nous imaginons, et en d'autres termes, proposition 17, partie 2, avec le scoli, où nous sommes affectés d'une affection qui enveloppe la nature de notre corps et celle d'un corps extérieur. La nature donc de chaque passion doit être nécessairement expliquée de façon que s'exprime la nature de l'objet par où nous sommes affectés. Je dis que la joie qui naît d'un objet, par exemple de A, enveloppe la nature de cet objet A, et que la joie qui naît de l'objet B enveloppe la nature de l'objet B. Et ainsi, ces deux affections de joie sont différentes par nature, naissant de causes de nature différentes. De même ainsi, l'affection de tristesse qui naît d'un objet est différente par nature de la tristesse qui naît d'une autre cause. Et il faut l'entendre ainsi de l'amour, de la haine, de l'espoir, de la crainte, de la fluctuation de l'âme, et par suite, il y a nécessairement autant d'espèces de joie, de tristesse, d'amour, de haine, que d'espèces d'objets par où nous sommes affectés. Quant au désir, il est l'essence même de chacun, ou sa nature, en tant qu'il est conçu comme déterminé à faire quelque chose par sa constitution telle qu'elle est donnée. Scoli de la proposition 9. Dès lors donc que chacun est affecté par des causes extérieures de telle ou telle espèce, de joie, de tristesse, d'amour, de haine, c'est-à-dire dès lors que sa nature est constituée de telle façon ou de telle autre, son désir sera nécessairement tel ou tel, et la nature d'un désir différera de celle d'un autre désir, autant que les affections d'où ils naissent diffèrent entre elles. Il y a donc autant d'espèces de désir que de joie, de tristesse, d'amour, etc. Et conséquemment, parce qu'il a été montré déjà, qu'il y a d'espèces d'objets par où nous sommes affectés. C'est QFD. Scoli. Parmi ces espèces d'affections qui, proposition précédente, doivent être très nombreuses, les notoires sont la gourmandise, l'ivrognerie, la lubricité, l'avarice et l'ambition, lesquelles ne sont que des désignations de l'amour et du désir, expliquant la nature de l'une et l'autre affection par les objets où elles se rapportent. Par gourmandise, ivrognerie, lubricité, avarice et ambition, nous n'entendons rien d'autre en effet qu'un amour ou un désir immodéré de la chair, de la boisson, du coït, des richesses et de la gloire. De plus, ces affections, en tant que nous les distinguons des autres par l'objet où elles se rapportent, n'ont pas de contraire. Car la tempérance et la sobriété, et enfin la chasteté, que nous avons accoutumé d'opposer à la gourmandise, à l'ivrognerie et à la lubricité, ne sont pas des affections ou des passions, mais manifestent la puissance de l'âme qui gouverne ces affections. Je ne peux d'ailleurs ici expliquer les autres espèces d'affections, et en ayant autant que d'espèces d'objets, et si, même je le pouvais, cela n'est pas nécessaire. Car, pour l'exécution de notre dessein, qui est de déterminer les forces des affections et la puissance que l'âme a sur elles, il nous suffit d'avoir une définition générale de chaque affection. Il nous suffit, dis-je, de connaître les propriétés communes des affections et de l'âme pour pouvoir déterminer de quelle sorte et de quelle grandeur est la puissance de l'âme pour gouverner et réduire les affections. Bien qu'il y ait une grande différence entre telle et telle affection d'amour, de haine ou de désir, par exemple, entre l'amour qu'on a pour ses enfants et l'amour qu'on a pour sa femme, nous n'avons donc pas besoin de connaître ces différences et de pousser plus outre l'étude de la nature et de l'origine des affections. Proposition 57. Une affection quelconque de chaque individu diffère de l'affection d'un autre, autant que l'essence de l'un diffère de l'essence de l'autre. Démonstration. Cette proposition est évidente par l'axiome 1 qui se voit après le lemme 3 faisant suite à la proposition 13, partie 2. Nous la démontrerons néanmoins par les définitions des trois affections primitives. Toutes les affections se ramènent au désir, à la joie ou à la tristesse, comme le montrent les définitions que nous en avons données. Mais le désir est la nature même ou l'essence de chacun, Scoli de la proposition 9. Donc le désir de chacun diffère du désir d'un autre autant que la nature ou essence de l'un diffère de l'essence de l'autre. La joie et la tristesse, maintenant, sont des passions pour lesquelles la puissance de chacun ou son effort pour persévérer dans son être est accrue ou diminuée, secondée ou réduite. Proposition 11 avec le Scoli. Mais, par l'effort pour persévérer dans son être, en tant qu'il se rapporte à la fois à l'âme et au corps, nous entendons l'appétit et le désir, Scoli de la proposition 9. Donc, la joie ou la tristesse est le désir même ou l'appétit en tant qu'il est accru ou diminué, secondé ou réduit par des causes extérieures. C'est-à-dire, même Scoli, est la nature même de chacun, et ainsi, la joie ou la tristesse de l'un diffère de la joie ou de la tristesse d'un autre, autant aussi que la nature ou essence de l'un diffère de la nature ou essence de l'autre. Et conséquemment, une affection quelconque de chaque individu diffère de l'affection d'un autre, autant, etc., CQFD. Scoli. Il suit de là que les affections des vivants, que l'on dit privés de raison, nous ne pouvons douter en effet que les animaux ne sentent, une fois connue l'origine de l'âme, diffèrent des affections des hommes autant que leur nature diffère de l'humaine. Le cheval et l'homme, sans doute, sont emportés par la lubricité de peau créée. Mais le premier, par une lubricité de cheval, le second par une lubricité d'homme. De même aussi, les lubricités et les appétits des insectes, des poissons et des oiseaux doivent être différents les uns des autres. Bien que chaque individu vive dans le contentement et l'épanouissement de sa nature telle qu'elle est formée, cette vie dont chacun est content et cet épanouissement ne sont rien d'autre que l'idée ou l'âme de cet individu. Et ainsi, l'épanouissement de l'un diffère de l'épanouissement de l'autre autant que la nature ou essence de l'un diffère de la nature ou essence de l'autre. Enfin, il suit de la proposition précédente que la différence n'est pas petite entre l'épanouissement dont un ivrogne, par exemple, subit l'attrait et l'épanouissement auquel est parvenu un philosophe, ce que j'ai voulu faire observer en passant. Voilà pour ce qui concerne les affections qui se rapportent à l'homme en tant qu'il est passif. Il me reste à ajouter quelques mots sur celles qui se rapportent à lui en tant qu'il est actif. Proposition 58. Outre la joie et le désir, qui sont des passions, il y a d'autres affections de joie et de désir qui se rapportent à nous en tant que nous sommes actifs. Démonstration. Quand l'âme se conçoit elle-même et conçoit sa puissance d'agir, elle est joyeuse. Proposition 53. Or, l'âme se considère nécessairement elle-même quand elle conçoit une idée vraie ou adéquate. Proposition 43, partie 2. D'autre part, l'âme conçoit certaines idées adéquates, scoli 2 de la proposition 40, partie 2. Donc, elle est joyeuse aussi, dans la mesure où elle conçoit des idées adéquates, c'est-à-dire, proposition 1, où elle est active. De plus, l'âme, en tant qu'elle a des idées claires et distinctes, comme en tant qu'elle en a de confuses, s'efforce de persévérer dans son être. Proposition 9. Mais par effort, nous entendons le désir, scoli de la même proposition. Donc, le désir se rapporte à nous en tant aussi que nous connaissons, c'est-à-dire, proposition 1, en tant que nous sommes actifs. C'est QFD. Proposition 59. Parmi toutes les affections qui se rapportent à l'âme, en tant qu'elle est active, il n'y en a point qui ne se ramènent à la joie et au désir. Démonstration. Toutes les affections se ramènent au désir, à la joie ou à la tristesse, comme le montrent les définitions que nous en avons données. Mais par tristesse, nous entendons ce qui diminue ou réduit la puissance de pensée de l'âme. Proposition 11 avec son scoli. Et ainsi, en tant que l'âme est contristée, sa puissance de connaître, c'est-à-dire d'agir, proposition 1, est diminuée ou contrariée. Il n'est donc point d'affection de tristesse qui se puisse se rapporter à l'âme en tant qu'elle est active, mais seulement des affections de joie et de désir, et en ayant, proposition précédente, qui se rapporte à elle-même considérée comme telle. C'est QFD. Scoli. Je ramène à la force d'âme les actions qui suivent des affections se rapportant à l'âme en tant qu'elle connaît, et je divise la force d'âme en fermeté et générosité. Par fermeté, j'entends un désir par lequel un individu s'efforce à se conserver en vertu du seul commandement de la raison. Par générosité, j'entends un désir par lequel un individu s'efforce, en vertu du seul commandement de la raison, à assister les autres hommes et à établir entre eux et lui un lien d'amitié. Je rapporte donc à la fermeté ces actions qui ont pour but l'utilité de l'agent seulement et à la générosité celles qui ont aussi pour but l'utilité d'autrui. La tempérance, donc, la sobriété et la présence d'esprit dans les périls, etc., sont des espèces de fermeté. la modestie, la clémence, etc., des espèces de générosité. Je pense ainsi avoir expliqué et fait connaître par leur première cause les principales affections et fluctuations de l'âme qui naissent par la combinaison des trois affections primitives, savoir le désir, la joie et la tristesse. On voit par cette exposition que nous sommes mus en beaucoup de manières par les causes extérieures et que, pareils aux vagues de la mer, mus par des vents contraires, nous sommes ballottés, ignorant ce qui nous adviendra et quel sera notre destin. J'ai dit, toutefois, que j'ai fait connaître seulement les principaux conflits où l'âme est engagée, et non tout ce qu'il peut y avoir. Continuant de suivre en effet la même voie que plus haut, nous pouvons montrer facilement que l'amour se joint au repentir, au dédain, à la honte, etc. Bien mieux, il est, je crois, établi pour chacun, par ce qui précède, que les affections peuvent se combiner entre elles de tant de manières et que tant de variétés naissent de là qu'on ne peut leur assigner aucun nombre. Mais il suffit à mon dessein d'avoir énuméré les principales. Pour celles que j'ai omises, elles seraient objet de curiosité plus que d'utilité. Il reste cependant à observer, au sujet de l'amour, que, par une rencontre très fréquente, quand nous jouissons de la chose appétée, le corps peut acquérir par cette jouissance un état nouveau, être par là autrement déterminé, de façon que d'autres images de choses soient éveillées en lui, et que l'âme commence en même temps à imaginer autre chose et à désirer autre chose. Quand, par exemple, nous imaginons quelque chose à la saveur de quoi nous avons accoutumé de prendre plaisir, nous désirons en jouir, c'est-à-dire en manger. Mais, tandis que nous en jouissons ainsi, l'estomac se remplit et le corps se trouve dans un autre état. Si donc, dans cette disposition nouvelle du corps, l'image de ce même aliment se maintient parce qu'il est présent, et conséquemment aussi l'effort ou le désir d'en manger, à ce désir ou effort s'opposera cet état nouveau, et par suite, la présence de l'aliment appété sera odieuse. C'est là ce que nous appelons dégoût et lassitude. J'ai, en outre, négliger les troubles extérieurs affectant le corps qui s'observent dans les affections, tels le tremblement, la pâleur, les sanglots, le rire, etc., parce qu'ils se rapportent au corps uniquement sans aucune relation avec l'âme. Je dois enfin faire, au sujet des définitions des affections, certaines observations, et, pour cette raison, je reproduirai ici avec ordre ces définitions en y insérant ce qui est à observer sur chacune.